à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Myrène de Lorgeril.
Bonjour.
Bonjour, Madame de Lorgeril. Vous avez 58 ans, vous avez 4 enfants. Vous habitez à côté de Carcassonne, à Penautier, et vous êtes rattachée à la paroisse Saint-Roch, en Cabardès.
C'est ça.
Dont l'église principale est
Penautier.
Est à Penautier. Voilà, vous êtes chef d'entreprise. Et chef d'une entreprise viticole, mais pas que, puisque vous avez pris la présidence depuis 1993, ça fait déjà un petit moment, d'un groupe familial qui était dans la famille de Haute-Marie, qui s'appelle le groupe Lorgeril. Et depuis, ce groupe a fortement prospéré. Vous avez aujourd'hui une cinquantaine de salariés, c'est bien ça?
Oui.
Et vous avez créé un certain nombre d'autres filiales, donc c'est un vrai groupe. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots?
Très rapidement, en effet, c'est un groupe qui est à l'origine viticole, puisque ce sont des vignobles autour d'une propriété familiale et que nous avons repris et petit à petit développé en reprenant d'autres domaines viticoles. Un peu partout dans le Languedoc, nous avons aujourd'hui 6 domaines différents. Donc nous avons développé à la fois une activité de producteur. Nous sommes aussi négociants vinificateurs, ça veut dire que nous achetons les raisins des autres, que nous travaillons et vinifions pour les signer. Et puis nous avons développé aussi toute une activité touristique qui est à la fois motivée par la nécessité de rendre le vin accessible. Et donc nous avons autour du château de Penautier un restaurant, des lieux de visite et d'accueil. Et il se trouve que le château de Penautier est aussi un monument historique, donc ça s'appuie aussi sur une dimension culturelle. Donc nous sommes sur ces deux axes importants pour le tourisme et nous accueillons aussi bien des séminaires, des séjours avec des gîtes, des salles de réception. Donc nous marchons sur deux pieds, à la fois la partie viticole qui nous amène aux quatre coins du monde puisque nos vins sont diffusés un peu partout, et puis beaucoup plus localement sur une activité touristique qui elle rayonne jusqu'à loin puisqu'on accueille des gens qui viennent d'un peu partout.
Alors je dois dire aussi, mais votre modestie vous empêche de le dire toute seule, donc permettez-moi de le dire, que vous avez été élu entrepreneur de l'année en 2016, ce qui n'est pas rien, par la tribune Women's Award. Donc c'est une reconnaissance internationale, et cette reconnaissance internationale, c'est parce qu'effectivement vous avez propulsé vos propriétés, parce que il n'y en a pas qu'une, vous en avez acheté en cours de route, vos propriétés qui ont toutes comme point commun d'être dans le Languedoc, mais dans différentes appellations du Languedoc, si j'ai bien compris, et qui produisent un excellent vin. Ça, je peux personnellement en témoigner parce que j'en bois régulièrement. Donc, vous avez propulsé ça à l'international, puisque vous vendez du vin pratiquement sur les 5 continents. Et donc, c'est une réussite tout à fait remarquable. Qui vous a valu d'ailleurs de prendre la présidence
de l'interprofession des vins du Languedoc.
De l'interprofession des vins du Languedoc.
Voilà, qui est un organisme qui réunit l'ensemble des producteurs, à la fois les producteurs et aussi les négociants, c'est-à-dire les metteurs en marché. Et c'est un lieu à la fois de dialogue et d'investissement pour la défense de nos métiers, aussi bien du point de vue technique que du point de vue de la communication. Donc c'est un outil à la fois de cohésion et de visibilité. Donc j'ai pris cette présidence pendant 3 ans, puisque le principe de ce genre d'organisme, c'est que ce sont des présidences tournantes.
Bon, là encore, votre modestie va en souffrir, mais vous êtes la première femme qui est présidente de ce genre d'association.
Oui, j'ai été la première femme présidente d'une interprofession, et c'est, je ne sais pas s'il faut s'en vanter, parce que c'est un peu consternant. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y en a pas d'autres dans toute la France, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, la génération montante.
Le monde de la viticulture est quand même réputé pour être un monde assez masculin, il faut bien le dire. Pas misogyne, je pense pas plus. D'ailleurs, si vous ont confié la présidence, c'est qu'ils le sont pas. Mais enfin, c'est quand même un monde dans lequel les femmes accèdent rarement à des postes de responsabilité. Comment vous avez vécu, vous? Est-ce que ça vous a posé un problème? Est-ce que vous avez senti une différence?
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est un métier historiquement plutôt masculin parce que c'est un métier agricole. Et donc, il y avait plus d'hommes engagés dans la dimension visible de l'agriculture. Mais aujourd'hui, 30% des chefs d'exploitation sont des femmes. Donc, il y a une vraie évolution liée notamment à la dimension familiale, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui reprennent des exploitations de leur père ou de leurs parents. Enfin, donc, il y a une transmission. Mmh. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes dans les métiers autour du vin. Et donc, elles sont maintenant capables de reprendre toutes les parties du métier. Il y a énormément de femmes œnologues. Il y a plus de femmes œnologues que d'hommes. Il y a beaucoup de femmes sommelières maintenant. Il y a des femmes qui se passionnent pour l'agriculture et la viticulture. Donc, il y a des femmes chefs d'entreprise. Donc, vraiment, maintenant, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que leur visibilité jusqu'à maintenant était très modeste. Je pense que la génération qui vient derrière nous, les femmes seront plus visibles.
Y compris dans le Languedoc.
Y compris dans le Languedoc. Nous avons été quand même la première région avec une femme. Donc, pour une région réputée éventuellement un peu macho. Voilà. Je veux dire que je n'ai jamais vraiment eu à en souffrir. Et pour répondre à votre question, au contraire, moi, j'ai souvent trouvé que le fait d'être une femme pouvait m'aider. Parce qu'au moins, on se souvenait de moi. J'étais la seule, donc ça laisse un petit souvenir un peu différent. Que sans doute, il y avait, n'étant pas de la région, il y avait pour moi des choses qui ne me paraissaient pas ni évidentes ni insurmontables. Et donc, j'ai pu passer outre certains freins qui sont infranchissable quand on est issu d'un milieu parce que ça paraît absolument rédhibitoire, et moi je les ai franchis allègrement parce que je me rendais pas compte de leur côté intangible. Ça donne un peu d'audace, et donc le fait d'être un peu différente m'a permis au contraire je pense d'être souvent peut-être un peu plus transgressive, un peu plus audacieuse, voire un peu plus naïve ou inconsciente. Hein. Il y avait des côtés de découverte quand on n'est pas complètement
naïve,
formaté.
Naïve, je ne suis pas sûr que ce soit le mot. Inconsciente peut-être.
Non, mais une forme d'audace qui est liée au fait qu'on n'a pas on n'a pas vécu tous les combats. Et donc on est prêt à monter sur un...
D'autant que, et c'est une autre caractéristique quand même de votre personnalité, vous n'êtes pas du tout né dans une cave, même très loin de là, ni dans une vigne. Donc vous êtes une famille de militaires, je crois.
Non, pas de militaire. Non, j'ai un frère militaire, mais,
militaire.
Mais ce chromosome kaki est arrivé, on ne sait comment. On s'est toujours un peu moqué de lui parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Mais d'une famille pas du tout
pas
rurale,
du tout dans le
monde, si je puis dire, une famille d'avocats, donc d'avocats du côté de mon père et de scientifiques du côté de ma mère. Donc, non, très éloigné de l'agriculture, ou tout au moins depuis 100 ans avant mon naissance, c'est-à-dire après là, les grands changements.
Non, vous n'aviez pas cette culture dans vos gènes, quoi.
Pas du tout.
Immédiat.
Pas du tout, mais justement, je pense que ça donne une très grande liberté. Et j'ai eu la chance de découvrir très jeune le Languedoc quand je me suis mariée et d'avoir un coup de cœur pour cette région que j'ai trouvé absolument magnifique.
Et alors, comment devient-on ce milieu versaillais qui est quand même très urbain? Comment devient-on viticultrice finalement? Quel est le parcours que vous avez suivi?
Alors, étant issue d'une famille plutôt d'intellectuels, on savait très bien parler de la nature. C'était déjà quelque chose, j'avais les mots.
Les intellectuels savent parler. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils racontent, mais ils savent parler.
Non, en tout cas, c'est vrai que j'étais d'une famille qui n'était pas très sensibilisée à ces questions-là et puis pas très épicurienne. Et donc, j'ai découvert ce métier en épousant mon mari. Et il se trouve que mon mari avait une autre carrière. Et donc, les choses se sont enchaînées de façon un peu surprenante. Mais j'ai d'abord travaillé dans une autre entreprise du vin. J'ai eu la chance d'être formée par une femme absolument remarquable qui m'a mise à ce métier alors que je m'en défendais puisque j'avais juste fait un stage chez elle et qu'elle voulait me garder. Elle m'a mise à ce métier en me tutorant pendant plusieurs mois. Elle m'avait pris à côté d'elle dans son bureau et elle m'a tout appris. Donc, c'est assez extraordinaire d'avoir comme ça un chef d'entreprise qui vous transmet un flambeau et une énergie et une foi, et en un métier passionnant. Et donc, j'ai découvert ce métier-là. Je ne suis jamais devenue une technicienne de la vigne. Je suis plutôt une bâtisseuse et plutôt chef d'entreprise. Et c'est vrai que ça m'a amenée à m'entourer de savoir-faire pointu, et je n'aurais rien fait toute seule, puisque les métiers de la vigne sont très divers. Ouais. Et quand on se développe, c'est encore plus divers. C'est-à-dire que du pied de vigne jusqu'au distributeur américain, il y a beaucoup, beaucoup de métiers différents. Et il faut savoir les faire un peu tous. Mais quand on est chef d'entreprise, on n'en fait aucun très bien. On coordonne l'ensemble. Et donc, moi, j'ai plutôt fait ce pilotage et donné cette impulsion et cette énergie pour nous développer.
Et j'imagine que vous avez un talent qui est celui de savoir vous entourer. C'est aussi la réussite de toutes les entreprises passe par là, c'est-à-dire que le patron sait choisir des collaborateurs qui sont au niveau de ce qu'il veut faire. Je crois que c'est ce que vous avez su faire, notamment avec votre mari, bien sûr, le choix des œnologues, parce que vous faites évidemment les vins du Languedoc, qui avaient une image qui n'était pas extrêmement valorisante il y a encore quelques dizaines d'années, ont beaucoup progressé, et notamment grâce à des entreprises comme la vôtre qui ont su s'entourer d'œnologues de talent pour faire du vin de qualité.
Voilà, on a à la fois reconquis des territoires et des terroirs qui étaient un peu oubliés,
notamment le Cabardès.
Difficile, voilà, le Cabardès. Nous, on est à la fois en Cabardès, donc cette appellation qui est juste au-dessus de Carcassonne. On est aussi en Minervois, en Livinière, en Faugère, en Saint-Chinian, on est en Roussillon. Tout ça, ce sont des terroirs qui sont des terroirs très beaux, en altitude, assez exigeants, parce que ce sont des terroirs caillouteux, et dans lesquels on peut produire des très grands vins, pour autant, effectivement, qu'on développe aussi un savoir-faire de vinification. Donc, il faut très bien travailler le vignoble et très bien travailler à la cave. Et c'est vrai qu'on s'est mis très tôt des objectifs d'excellence, et que les 20-30 dernières années ont été assez spectaculaires là-dessus. C'est passionnant. Nous sommes effectivement à 3 km de Carcassonne, donc très facile d'accès, et pour des Toulousains, c'est une promenade magnifique que d'aller se promener à Carcassonne et autour. Les coteaux au-dessus de Carcassonne, du côté de la Montagne Noire, sont magnifiques. Je vous invite à y aller en ce moment, en plus, avec des couleurs superbes. Et effectivement, donc le Pénotier se visite, est ouvert toute l'année. Et nous avons une boutique, restaurant, on peut visiter les chais.
Le restaurant qui est excellent. J'ai eu l'occasion de m'y arrêter, où on peut faire de très bons repas avec une dégustation choisie de vin. C'est très, très agréable. Bien, Madame de Lorgerie, je crois que tout le monde comprend bien ce que vous faites, ce que vous avez réussi à faire. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu de vos enfants ou de votre famille, parce que vous avez un fils aîné qui est prêtre. C'est ça. Et qui fait partie de la communauté Saint-Martin, laquelle communauté est rattachée directement au Vatican. Et c'est une communauté qui regroupe pas loin de 200, soit prêtres, soit diacres, qui sont mis à la disposition d'un certain nombre de diocèses. Donc, ça fait quoi une maman de voir son fils aîné qui fait des études brillantes, qui a tout pour réussir une carrière professionnelle formidable, tout d'un coup choisir la prêtrise?
C'est un gros choc. Parce que même si on a un enfant charmant, profond et engagé, on n'imagine pas obligatoirement la vocation. D'autant plus qu'il était passionné aussi, comme vous dites, par ses aptitudes professionnelles. Il était très dans la vie. Je pense aussi, vous évoquez le fait que c'est notre aîné, particulièrement frappant quand on vit dans le monde de l'agriculture, quoi qu'on en dise, et bien qu'on s'en défende, on ne peut s'empêcher de faire un petit transfert sur la génération qui suit. L'idée de la continuité était quand même très présente. Et fatalement, l'aîné est un petit peu dans le collimateur, si je puis dire. Oui. Donc, même s'il est dans une très grande liberté, puisqu'en plus, on a 4 enfants, et puis qu'on sait bien aussi qu'ils feront ce qu'ils pourront derrière, c'est vrai que ça a sans doute humainement amplifié les faits. Mais je dirais que le plus grand choc, il est sur le fait de voir son enfant donner sa vie. Donner sa vie aussi profondément, en se disant, finalement, on lui a transmis la foi, on a essayé de lui transmettre la foi. Nous, la foi change nos vies de façon importante, mais pas de façon aussi radicale. Finalement, la vie que nous avons, nous aurions presque pu l'avoir sans la foi, même si, bien sûr, en profondeur, ce ne serait pas pareil, mais dans le déroulé, pour lui, c'est radical, c'est un changement complet, c'est un don complet, un abandon complet, un renoncement important. Il ne nous a jamais caché, et nous lui en avons été très reconnaissants, il ne nous a jamais caché le sacrifice que ça représentait, l'effort que ça représentait. Donc, on n'a pas... un rêve. C'était vraiment une réalité avec tout ce que ça peut avoir de difficile. Et en même temps, on l'a toujours senti très heureux de se donner, très heureux dans ses études, très heureux dans sa vie communautaire. La communauté Saint-Martin est une communauté avec une vie fraternelle extraordinaire. Et donc, il y a découvert une vie fraternelle extrêmement nourrissante. Et puis, pour nous, on était aussi assez rassurés, même si on ne connaissait pas cette communauté Saint-Martin, et qu'il y est allé parce qu'il nous a dit que c'était là qu'il avait trouvé le plus de joie. C'était quand même un bon départ. On est très heureux de voir que c'est une communauté qui propose à ses prêtres de vivre à 3 ou 4. Parce que c'est le principe de cette communauté, c'est qu'ils vivent en communauté toujours à 3 ou 4, comme une famille. Ils ont la délicatesse et la bienveillance qu'on peut avoir dans une famille. Ils vivent à 4, ils se partagent les tâches, ils apprennent pendant leur formation à parler le même langage, ils sont formés de la même façon. Ça les aide beaucoup pour la mission et je crois que ça les aide dans leur vie quotidienne. Donc c'est assez rassurant pour des parents de voir que dans ce renoncement, il y a malgré tout une forme de famille autour de lui et qu'il n'est pas seulement dans la grande famille de l'Église dont on connaît la beauté mais qui quelquefois peut vous laisser un peu isolé. Là, il y a aussi cette dimension très présente.
La communauté Saint-Martin est une communauté très dynamique. Alors j'ai vu que récemment, il est devenu aumônier dans un lycée privé catholique.
Effectivement, après quelques années, il a été en paroisse pendant qu'il terminait sa thèse de doctorat de théologie à Paris. Et donc pendant ce temps-là, il était dans une paroisse à 1 heure de Paris. Et depuis qu'il a terminé sa thèse, il est parti à Pont-le-Voix, qui est une très belle abbaye, ancien lycée militaire magnifique, un des plus anciens collèges de France, qui est maintenant la propriété d'une école. Qui a repris l'histoire de cette abbaye qui a connu une période dans le courant du XXe siècle qui avait été désaffectée. Et donc ils ont depuis 15 ans remonté un collège-lycée sur les traces de cette abbaye et ils ont pu racheter l'abbaye il y a 3 ans. Et donc Enguerrand est arrivé l'année dernière comme aumônier général, donc responsable de cette petite communauté de 4. Ils ont à la fois l'aumônerie générale d'un gros établissement scolaire qui est un établissement sous contrat.
Donc sous contrat, 800
élèves et sous contrat, donc dans la région de la Loire, juste à côté de Blois. Et par ailleurs, ils ont un internat, et ça c'est une volonté de leur part d'engagement profond sur l'éducation. Ils ont un internat de 180 garçons et 60 filles, qui sont des jeunes qui soit viennent de la région, soit viennent de plus loin. Mais avec lesquels ils ont l'occasion, si je comprends bien, dans ce que je vois, de ce que je lis et ce que j'entends, de partager un vrai projet éducatif avec des jeunes qui sont là toute la semaine. Donc on a l'occasion de dialoguer avec eux en profondeur et j'ai l'impression que c'est vraiment un apostolat magnifique, que cet apostolat auprès des jeunes.
Alors je trouve personnellement que par rapport aux générations qui nous ont précédées, vous et moi, ou même que nous avons connues, l'enseignement catholique a souvent un peu démissionné, faute sans doute de bras, en quelque sorte, sur l'enseignement catholique, sur l'enseignement de la religion. Et c'est vrai que moi je suis un ancien du Caosu, on avait un enseignement religieux de qualité fait par des jésuites qui était obligatoire pour tout le monde. On avait des messes, tous les pensionnaires avaient une messe toutes les semaines, etc. Je vois maintenant que beaucoup de ces collèges privés qui ont de plus en plus de succès, ils font tous le plein et bien souvent il y a des listes d'attente à Toulouse en particulier qui fait qu'on n'est pas du tout sûr de pouvoir inscrire ses enfants. Alors qu'ils auraient l'opportunité justement de témoigner et de faire du prosélytisme avec notre religion, avec notre croyance, souvent, malheureusement, ça ne se passe pas. Donc je suis très, très heureux de voir que la communauté Saint-Martin, par exemple, votre fils en particulier, participe à ces aumôneries, relance ces aumôneries. Est-ce que vous avez cette même perception que moi ?
Oui, alors je ne connais pas les enjeux détaillés de l'enseignement catholique. Moi, j'ai élevé mes enfants pour partie dans l'enseignement catholique et dans l'enseignement privé. Et j'ai vu des choses plus ou moins réussies. Toujours beaucoup de motivation quand même de la part des écoles. Mais c'est le vrai enjeu du caractère propre de l'enseignement privé qui a été quand même mis à mal dans les dernières années, comme vous le dites. Peut-être aussi à force de vouloir accueillir avec charité. On a quelquefois mis un peu son drapeau sous le boisseau, si je puis dire, pour penser pouvoir parler à tout le monde. Et c'est vrai qu'on voit que dans les endroits où on parle franchement de la foi, il semblerait que ça se passe bien. Ça sous-entend beaucoup d'énergie de la part des établissements, ça sous-entend des formateurs qui soient eux-mêmes formés, disponibles, des vraies aumôneries avec du monde. Et je sais qu'effectivement, pour beaucoup d'établissements, c'est difficile.
Voilà. Oui.
Mais c'est vrai que la volonté de départ est sans doute indispensable.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait rendre obligatoire, finalement, dans l'enseignement catholique, sous contrat y compris, rendre obligatoire un enseignement à la religion, même pour des gens qui, au fond, viennent là par opportunisme et ne sont pas nécessairement baptisés ou n'ont pas une foi chevillée au corps?
Je ne suis pas capable de répondre exactement dans la mesure où je ne sais pas quels sont les écueils de ce genre de choses, parce que j'imagine que si on a parfois fait marche arrière sur ces questions-là, c'est parce qu'il y avait des abus dans le fait de systématiquement imposer aux jeunes de participer à tout. Je pense qu'il peut y avoir des doubles détentes, c'est-à-dire qu'il y a un minimum partagé pour qu'effectivement les jeunes aient l'occasion de rencontrer la foi et de rencontrer l'enseignement chrétien et de d'avoir l'occasion de se nourrir de cette parole. Je pense qu'on ne peut pas tout obliger parce que sinon on aurait des réactions sans doute un peu superficielles, voire contre-productives. Mais il y a sans doute un équilibre à trouver. Je ne saurais pas vous dire exactement, puisqu'on prenait l'exemple du collège dans lequel exerce mon fils, je ne sais pas exactement quel est leur équilibre. Mais il me semble que, pour avoir parlé avec quelques responsables d'aumônerie laïque, que souvent c'est un équilibre, c'est-à-dire il y a une partie qui est obligatoire et une partie qui ne l'est pas, une partie qui est sous option en fonction des âges ou en fonction des désirs des familles.
C'est pas toujours le cas, mais je pense que c'est effectivement.
C'est sans doute ça le bon équilibre. Maintenant, je connais pas suffisamment le dossier. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai bien vu dans l'éducation de mes enfants, donc c'est ce témoignage que je peux avoir, que quand les collèges sont nourrissants. Les jeunes repartent renforcés dans leur foi et dans leurs engagements. C'est pas radical, c'est pas certain. C'est-à-dire, quelquefois, on peut tout partager.
On sème des petites graines. Voilà. Et c'est quand même important. Je voudrais qu'on aborde, dans les quelques minutes qui nous restent, un autre sujet, mais qui vous touche personnellement. Je sais que vous avez, dans votre propre fratrie, une sœur qui était handicapée. Vous êtes d'une famille nombreuse, vous-même. J'aimerais avoir votre témoignage sur la façon dont vous avez vécu cette présence d'un handicapé dans votre fratrie, comment ça s'est passé. Je pense que beaucoup de gens sont confrontés à ce problème et ne savent pas toujours comment traiter ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience?
Bien sûr, c'est une très belle histoire et je suis très reconnaissante à la vie de m'avoir donné de vivre ce que nous avons vécu en famille. Donc ma petite sœur s'appelait Marie-Ange, elle est morte à 53 ans il y a 2 ans et elle était trisomique 21. La trisomie étant un handicap qui pose énormément de difficultés dans l'éducation, le quotidien, mais qui est aussi un handicap qui a l'air de, pour beaucoup de trisomiques, leur donner en partage le sourire. Beaucoup d'entre eux sont très souriants et très joyeux. Et je dois dire que Marie-Ange était comme ça, sans gommer le fait qu'elle avait bien évidemment son caractère, des difficultés, et que ce n'est pas que... on n'a pas vécu que sur un petit nuage. Mais en tout cas, elle nous a donné ça. Et très tôt, mes parents, qui étaient très profonds, ont voulu partager avec elle l'ensemble de leur foi. Et elle a grandi dans la foi de façon assez extraordinaire et suffisamment pour, à partir de 22 ans, rejoindre une communauté qui s'appelle la communauté des disciples de l'agneau, qui est une communauté qui est spécifiquement dédiée à des jeunes filles trisomiques. Donc c'est une expérience très extraordinaire.
Il y a une antenne à Toulouse ici très dynamique. Ah, oui.
C'est très extraordinaire comme histoire. Et je dois dire que moi j'ai eu la chance que, bien que ce soit difficile et que nos parents n'aient jamais caché que c'était difficile, nous avons eu la chance de nous construire autour d'elle. C'était pas du tout une atmosphère de famille handicapée, c'est-à-dire on parlait pas que de ça toute la journée, on vivait avec elle de façon tout à fait naturelle. Mais en même temps, sa faiblesse, son caractère particulier, son inattendu, sa capacité à créer des surprises, sa capacité à nous faire ralentir. On construit notre famille d'une façon un peu particulière autour d'elle. Et de fait, ça nous a tous fait grandir. Donc on a beaucoup reçu de cette épreuve, qui a été une épreuve très importante pour nos parents, il ne faut pas le nier. Même s'ils ont su la transcender, ils ont vécu ça en plus.
Ils ont su le partager. Vous étiez combien de frères et sœurs?
7.
Sept. Et c'était la dernière.
Oui, c'est la petite dernière.
Et donc, ils ont su quand même vous faire partager toute cette fratrie. Ce n'est pas évident pour les six aînés.
Ils ont su nous faire partager sans jamais que ça nous pèse. Je veux dire qu'ils ont été assez héroïques de ce côté-là parce que ils avaient l'air de s'en sortir, c'est-à-dire ça pesait pas sur nous, alors que quand on a appris plus tard toutes les épreuves qu'ils avaient surmontées, toutes les embûches que nous ne voyons pas, parce que quand on est enfant ou adolescent on ne réalise pas, elles étaient quand même considérables, parce que Marie-Ange est née en 67 à une époque où il y avait absolument rien de fait pour pouvoir accueillir les handicapés, ni dans le monde scolaire, ni même dans le monde de la santé, ni partout, il fallait ouvrir de nouvelles portes. Donc c'était une expérience, une époque très, très rude.
Bien, Myrène de Longeril, malheureusement notre temps est déjà écoulé. On vous écouterait avec beaucoup d'attention et de plaisir pendant encore de longues minutes. J'aurai peut-être l'occasion de vous réinviter un jour ou l'autre. Mais merci pour tous ces témoignages. Merci pour ce que vous faites aussi pour votre paroisse et pour tous les gens autour de vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et puis bravo pour votre réussite professionnelle.
Et si je peux me permettre, j'invite ceux que ce témoignage sur le handicap intéresse à lire le très beau livre de Raphaël Simon aux éditions Artege qui s'appelle Choisi pour l'éternité et qui raconte l'histoire de cette petite Marie-Ange.
Choisi pour l'éternité, édition Artege, c'est ça ?
Raphaël Simon.
Raphaël Simon. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli. Au revoir.